الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاه الإسلام نغمسي الله عز وجل كي دون سا كليمانس nous donne la possibilité de consacrer un peu de temps pour écouter quelques paroles sur la religion. Et l'objectif de cette intervention est de renforcer notre foi sur l'au-delà, notre iman bil yawmil akhir. Essayer de connaître comment seront ressuscités les pieux le jour de Qiyama. Essayer de voir quels étaient leurs efforts, quelles étaient leurs actions, leurs bonnes actions dans ce monde. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes seront honorées le jour des comptes? Qu'est-ce qui fait que, en ce jour terrible du Qiyama, en ce jour de crainte, en ce jour d'angoisse, qui est décrit par des versets effrayants de le Coran, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont connaître un moment de bonheur total, alors que c'est le jour le plus terrible pour l'humanité? Ben, ce sont des personnes, on allait dire tout simplement, mais c'est effectivement tout simplement des personnes qui ont accompli certaines actions avec un tel degré de sincérité, un tel amour pour Allah, un amour débordant, un cœur attaché à Allah Azza wa Jal, et ces personnes-là, bi-idhnillah, et ensuite grâce à ces actions, ils ont vu leur passage sur ce monde accepté, et en plus d'être acceptés comme inshallah l'ensemble des croyants, ces personnes vont se distinguer parce que leurs a'ma, leurs actions étaient tellement sincères qu'Allah, le jour de Qiyama, va décider de les appeler. De les appeler pour leur donner une place sous l'ombre de son trône. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ. Le jour où aucune créature ne trouvera refuge si ce n'est sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. On peut éteindre le ventilateur, c'est gentil. جزاك. Et donc, nous sommes à la fin de ce long voyage où on a bi-idhnillah étudier quelles sont les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah et quelles sont les actions qu'ils ont réunies. Un habile, on peut nous faire un petit rappel. On avait vu qu'il y a Imam Adil, un dirigeant juste. On a vu également qu'il y a Shabun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui consacre sa jeunesse à l'adoration d'Allah. Un jeune qui ne sort pas des limites malgré la fougue de la jeunesse. Mais cette fougue reste sous contrôle. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme arrive à se contrôler? C'est quand dans son cœur il a l'amour et la crainte d'Allah. L'amour et la crainte d'Allah, c'est à la base du self-contrôle spirituel, mais c'est également à la base de chaque bonne action et de la motivation pour les bonnes œuvres. On a vu également Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, un homme dont le cœur est attaché au masajid. On a vu de quelle façon est-ce qu'un homme doit être attaché au masajid. On a vu également, en quatrième c'était quoi? En quatrième c'était Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, un homme qui reçoit des avances d'une femme d'une grande beauté et d'une haute lignée et que cet homme refuse ces avances en disant « Inni akhafullah », je crains Allah. C'est-à-dire que cet homme-là n'a pas accompli une bonne action. On ne parle pas de quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire tahajjud depuis Isha jusqu'à Fajr jusqu'à sa mort et à jeûner du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. Non, il suffit de répondre présent à certains moments de sa vie et de montrer à Allah Azza wa Jal la pureté de notre cœur et le fait qu'on s'est soumis à lui complètement. Et donc cet homme qui a la possibilité d'accomplir l'adultère. Et il n'y a rien de plus difficile pour un homme que de résister aux avances d'une femme. L'être humain est sensible à certaines tentations. Le Coran, on a le verset qu'on répète souvent, وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنَ جَمَّ. L'homme aime les biens de ce monde. L'homme aime l'argent. C'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine. Si quelqu'un qui dit non, moi l'argent ça ne m'intéresse pas, rien du tout, il ne faut pas le croire. Il ne faut pas le croire. Nous restons des insan. Maintenant, on doit travailler cette relation avec les biens de ce monde. Donc, dans les relations avec l'argent, il y a la faiblesse. Il faut être capable de résister à l'argent facile, à tout ce qui est malhonnêteté, tout ce qui est riba, intérêt aux transactions illicites. L'autre faiblesse de l'homme est certainement plus, plus grave et plus difficile à résister encore que le fitnatul mal, c'est fitnatul nisa. Le fitna des femmes. Le Prophète a dit qu'il n'a pas laissé une fitna plus grave, plus lourde en conséquences, plus dangereuse que le fitna en rapport avec les femmes. Il suffit qu'une belle et une jeune femme vous fait un petit signe, un petit coucou, un clin d'œil et tout, la tête y tourne. Ça perturbe la personne. Ça peut être un jeune, ça peut être quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, c'est la faiblesse humaine. Et donc, cette personne qui, dans cette situation de tentation et de proposition du haram, arrive à dire non uniquement par amour et par crainte d'Allah, pas par rapport au regard des gens, pas parce qu'il habite au centre-ville de Saint-Denis, pas parce qu'il a une position de... Non, qu'il soit à l'étranger, quel que soit l'endroit. C'est-à-dire, toutes les conditions sont réunies pour que rien ne puisse l'empêcher de faire ce haram. Imaginez, quelqu'un est en voyage d'affaires, il est ailleurs en Thaïlande, en Chine, ou je ne sais pas où, et qu'on est dans un hôtel et personne ne nous connaît. Il n'y a pas de regard de Aprawala, il n'y a pas de regard de personne. C'est là la taqwa. C'est que tu ne mets pas en péril l'honneur de ta famille, ni le nom de ton père, ni ton titre de Hafiz al-Qur'an, ou de quelqu'un qui, lui, il est tout le temps en premier rang à la mosquée. Là. Non, c'est pas tout ça. C'est par amour et par crainte d'Allah. C'est ce qu'il y a de ton cœur, et j'allais dire dans un langage plus un peu moins respectueux, ce qu'il y a de tes tripes. C'est là qu'on voit, c'est dans ce genre de situation extrêmement sensible qu'on voit vraiment, est-ce que dans le cœur il y a l'amour d'Allah, ou alors il y a la passion humaine qui prend le dessus. Et on a vu donc récemment de cette... et puis il y a également l'homme qui donne l'aumône. Rajulun, la personne qui donne tasaddaqa bi sadaqatin, qui donne l'aumône avec une telle sincérité que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Pas comme les gens ils disent, ah moi, mais donne-moi, mon papa il donne, mon grand-père il donne masjid, et ainsi de suite. Ou alors on multiplie les statuts Facebook ou les tweets qu'on fait de bonnes heures. Allah Moustan. Donner avec une telle sincérité, mais avec une conviction en Allah, confiance dans les situations d'aisance, mais également des situations de difficulté. On a vu dans Riyad al-Salihin récemment que dans les deux situations, fi sarra et wa dharra, le monde est difficile. Quand on a la poche vide, ça se comprend. Quand on est à la fin du mois et que le salaire, c'est dans deux jours, et qu'il nous reste 37,50 € dans le compte, ça arrive. Et là, on a une occasion qui se présente, quelqu'un qui a une difficulté ou autre, il demande 10 €, on réfléchit, là on tire les calculatrices, on dit, attends, 37,50 moins 10, ça fait 27,50, au vu de mon pouvoir d'achat, au vu des besoins en trois jours. Là, tu mets de côté ton calcul de mathématicien, tu dis, tawakkaltu ala Allah, tu donnes pour Allah. C'est difficile, le faire, c'est valeureux. Mais quand la poche est pleine aussi, c'est une autre fitna. Quand on est plein, on est rempli, on se dit que j'ai mérité ce travail. Moi, je me lève depuis 6 h du matin, je suis chanté, je suis là. Lui, il reste assis, là, il fait rien du tout, et il demande. Mais celui qui t'a donné, c'est Allah. Celui qui te permet de te lever le matin et de te mettre debout sur tes deux pieds et que tes genoux tiennent ton corps et que, mashallah, tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas un handicap qui t'empêche de travailler, que ce soit physique ou mental ou autre chose, tu n'habites pas dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Il a réalisé tous les bienfaits qu'Allah nous accorde, ce sont par, bi'idhnillah, c'est par ces bienfaits que nous pouvons avoir un certain statut et gagner notre vie. Donc, ce croyant qui pense qu'il le mérite, c'est quelqu'un qui se trompe totalement. Donc, même dans des situations d'aisance, donner, c'est quelque chose qui est lourd. Parce que Shaitan rend tes mains extrêmement lourdes. Il est parfois plus facile de porter 40 kilos. Hein, on fait des haltères, plus facile que de prendre un billet de 10 € et de donner. Allah Moustan. Si vous voulez avoir un peu de pecto, les jeunes, prenez des billets de 10 € et donnez le monde. Vous allez voir comment ça va gonfler très rapidement. D'accord? Khayran, inshallah. Et donc, là, nous terminons avec Rajulun dakar Allah khaliyan fawadat aina. On est dans les derniers durus de cette catégorie. L'homme qui pense à Allah avec un tel amour et une telle crainte d'Allah, une telle reconnaissance qu'Allah lui permet d'être là devant lui à faire dhikrullah, à demander doua avec haya, avec une telle honte, une telle gêne, parce que la personne sait que je désobéis à Allah régulièrement et je me présente devant lui sale. Celui qui peut se vanter que moi j'ai pas de péché, moi machin, je suis quelqu'un de bien, chassez-le. J'allais dire félicitez-le, non, chassez-le. Ne le croyez surtout pas. C'est le plus grand imposteur. Parce que personne, aucun être humain, n'est à l'abri d'erreurs et des péchés, à part un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, avec honte, gêne et pudeur que ce que j'ai cumulé comme erreur, et que là je me présente devant Allah. Et un peu comme quand on va faire le hajj, ou une personne va en Umrah, et qu'il se présente devant la Kaaba avec beaucoup de gêne parce qu'on est impassif, on sait qu'est-ce qu'on a fait toute l'année, et là on se présente devant Baytullah, mais il ne faut pas avoir honte de se présenter devant Baytullah, mais il ne faut pas que cette honte-là, c'est uniquement devant la Kaaba. Cette honte, si elle doit habiter notre cœur, elle doit y être tout le temps. Chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on lève les mains, on sait qu'on se présente devant Allah, et Allah sait exactement tout ce qu'il y a dans ton cœur. Alimun bidhatis sudur. Et rien ne peut être caché devant Allah Azza wa Jal. Et donc cet homme dans l'obscurité, dans la solitude. Pourquoi solitude? Parce que solitude c'est synonyme de sincérité. C'est pas celui qui prie devant tout le monde, celui qui prie seul. Idéalement chez lui ou dans une masjid, mais dans une situation où personne ne le voit. Et là la personne soit dans la salah, soit dans les du'as, soit dans la lecture du Coran, et on avait vu les différentes catégories de adhkar, qu'une personne pleure en lisant le Coran, ou en faisant du'a, ou en faisant le dhikrullah, ou en étant dans la prière en lisant le Coran, c'est inshallah considéré comme étant dans le dhikrullah, parce que tout ça c'est le dhikrullah. Et on avait vu les différentes adhkar que le Prophète nous a enseigné, et comment cela nous est profitable. Il nous reste à voir deux points. Un point qu'on avait un peu entamé la dernière fois, quels sont les dhikr prioritaires? Surtout à notre époque, je ne dis pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais malheureusement, on n'arrive pas à tirer du temps pour les bonnes œuvres. Mais quand il s'agit de vérifier nos notifications, on a le temps. Et combien de fois Shaitan, il nous détourne d'une bonne action? Tu prends ton Coran, tu t'assois, hein? Tu es prêt là, misal yamou yasin, tawarakalladhi, je vais commencer mon katam. Petite sonnerie, pas sonnerie, une petite notification, un petit bip ou un petit tweet. On regarde, qui c'est qui a tweeté quoi? Qui est ce petit oiseau qui m'appelle? Et quand tu vas voir le petit oiseau, tu vois les oies qui migrent, tu vois les vautours, tu vois les tourterelles, et voilà, les rossignols, et tu passes 30 minutes sur ton pantam. Fitna. Si vous voulez travailler, que ce soit travail personnel, d'accord, professionnel, ou mieux, quelque chose de spirituel, mettez sur silence et retournez. Pourquoi retournez? Parce que vous avez toujours la petite lumière qui clignote. Ce portable-là, il ne dort jamais, lui. Même sur silence, il te met des petits clins d'œil comme ça. D'accord? Et après, sur des bons portables, si vous pouvez mettre le petit clin d'œil rouge, c'est Hotmail. Petit clin d'œil bleu, c'est Facebook. Petit clin d'œil vert, c'est WhatsApp. Donc, vous savez exactement qu'est-ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui sort du four. Fitna. Et Shaitan, il veut faire tout pour qu'on n'accomplisse pas les bonnes œuvres. Ou alors, si tu es en train d'accomplir, Shaitan va faire tout pour que, en faisant les bonnes actions, tu n'es pas avec Allah, mais tu es avec lui. Comment ça? En faisant les bonnes actions, tu n'as aucune concentration, aucune dévotion, aucune attention. Que cette lecture du Coran, c'est un bourdonnement. C'est du tajwid, mais bourdonné. Sans qu'il n'y ait de dévotion. Pas pour le dhikrullah, succession de lectures, mais sans qu'il y ait de connexion avec Allah Azza wa Jalla. Donc, au vu de nos faiblesses, il est important de savoir sur quel adhkar on doit se concentrer. Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit que le meilleur, c'est la lecture du Coran. Ensuite, c'est le dhikrullah. Ensuite, c'est les invocations, les du'as. Et quand on dit du'as, ça peut être les istighfar et ainsi de suite qui viennent avec. Maintenant, il n'y a pas une règle générale pour dire que passer l'essentiel du temps dans le Coran ou autre chose. En fait, ça dépend des circonstances. Dans certaines circonstances, la lecture du Coran, elle est profitable, comme dans le dernier tiers de la nuit, et ainsi de suite. La lecture du Coran est profitable. Dans certaines circonstances, ce sont les adhkars qui sont profitables. Donc, on va voir l'avis de certains savants, et on va voir qu'ils ne se focalisent pas sur l'extérieur, sur l'apparence, sur l'action. Mais ils donnent de l'importance sur la connexion avec l'action. C'est exactement ce qui nous manque. De nos jours, beaucoup de bonnes choses apparentes, de belles lectures, des qaris qui viennent, qui soulèvent les foules et qui font rugir les gens de takbir. Encore, ils étaient soft, hein. J'ai vu des vidéos où on en parlait. Et je dis, parfois, c'est de l'exagération. Le qari dit juste, wadduha, Allahu akbar, tu wadduha. Il n'y a pas eu deux minutes.
Les gens, ils sont dans le folklorique. On aime le show. Quand il y a du show, on est là, on est présent. Le vendredi soir, full. Samedi Fajr, comment on dit vide en anglais? Empty. Empty. Totalement. Allah Musta'an. Allah Musta'an. Il n'y a pas de réalité. Il y a geste. Il y a du geste, il y a du show. Et on a besoin, nous, de revenir vers l'essentiel. S'il n'y a pas l'essentiel, ça reste de l'ornement. Et notre Rabb n'attend pas de nous la quantité, mais la qualité. Quand le Prophète sallam avait vanté Abu Bakr, il avait dit que Abu Bakr vous a tous dépassé. Mais le Prophète dit que Abu Bakr al-Siddiq ne vous a pas dépassé bi kathrati al-a'mal. C'est pas qu'il a fait énormément, beaucoup plus d'actions, mais il y avait quelque chose de son cœur, c'est la piété, c'est l'amour d'Allah, la dévotion, l'esprit de sacrifice. Et on citera toujours cet exemple, campagne de Tabouk, où chacun doit contribuer. Uthman ibn Affan, quand il amène une partie de ses biens, Uthman ibn Affan, il était riche. On pourrait dire comme un millionnaire à notre époque. Quelqu'un qui était immensément riche. Quand il amène une partie, ça dépasse ce que tout le monde amène. Mais Abu Bakr, il a pas les moyens de Uthman, mais lui, il amène tout. Tout. Et le Prophète dit, tu as laissé quoi pour ta femme, tes enfants? Allah et son prophète. L'esprit de sacrifice. C'est pas la quantité. C'est pas qu'Abu Bakr a amené, on va dire, 500 grammes d'or. Et que Uthman aurait amené 10 kilos. Je donne des exemples, hein. C'est pas la quantité. C'est l'esprit de sacrifice. On a besoin de revenir vers l'essentiel. Après, il y a des exemples un peu classiques. Après l'accomplissement de la salah, ce qu'il faut faire, c'est pas la lecture du Coran. Ce sont les adhkar. Et à Saint-Clotilde, j'avais cité cette anecdote qu'une fois le Prophète vient le Sahaba se lever après la salah et il avait l'habitude de partir régulièrement. Le Prophète l'avait interpellé une fois, pourquoi est-ce que tu ne restes pas un peu pour faire doua et demander à Allah ce dont tu as besoin? Après, l'histoire est longue et le Sahaba avait expliqué ses difficultés et quels étaient les besoins. Ce que nous retenons, c'est que on ne peut pas faire la salah et partir immédiatement sans demander à Allah ce qui nous est cher. Tu t'es prosterné devant lui. Tu t'es agenouillé devant ton Seigneur. Tu as fait ses louanges. Et tu as dit, Sami' Allahu. Allah a entendu. Liman hamidahu. Liman hamida. Celui qui a fait ses éloges, ses louanges. C'est le moment, après la salah, de demander à Allah ce qui est important pour toi. Tu as en face de toi ton Seigneur, ton Créateur. Celui qui crée les situations. Celui qui prend les décisions. Celui qui t'a éprouvé. Celui qui a envoyé la difficulté pour avoir. Est-ce que tu t'en remets à lui ou tu vas voir les gens et tu vas t'apitoyer sur ton sort? Mais celui qui a envoyé l'épreuve, c'est celui qui a envoyé des épreuves pour Job, Ayyub alayhi salam, la plus grande maladie, la plus dure de l'histoire de l'humanité. C'est celui qui a éprouvé Moussa alayhi salam par, subhanallah, nombre d'épreuves, nombre de situations, d'épreuves face à des ennemis, ennemis apparents, Pharaon, ennemis cachés, Assamiri, trahison, des gens qui étaient avec lui, Banu Israël. Celui qui envoie des difficultés pour Ibrahim alayhi salam lorsqu'il est jeté dans le feu. Pour Yunus alayhi salam lorsqu'il est avalé par la baleine. Pour le prophète alayhi salat wa salam avec toutes les épreuves qu'il a vécues. Mais c'est ce créateur qui nous annonce que innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. C'est celui qui peut enlever les difficultés. C'est celui qui peut te soulager des épreuves. Celui qui décide de la fin des épreuves, ou du soulagement, tarfif des épreuves. Donc, c'est le moment d'invoquer Allah. Et quand on dit invoquer Allah, subhanallah, c'est pas le doua d'Ya l'imam. Ça, c'est une grande tradition qu'on a importée. On a apporté, j'ai dit importé, mais c'est pas mal non plus, c'est importé. Les doua, c'est entre toi et Allah. Ce que tu demandes, et ça sort de ton cœur. Il n'y a pas besoin de demander des doua en arabe. On demande des doua dans la langue que nous comprenons. Mais qu'on arrive à rétablir un dialogue avec notre Seigneur, avec Allah, Azza wa Jal. Dans les situations d'angoisse, de stress, quel est le meilleur dhikr? Ce sont les doua. De lundi après la salat, ce sont les adhkar. Mais dans les situations d'angoisse, ce sont les doua. Lorsque notre prophète, alayhi salat wa salam, la veille de la bataille de Badr, le prophète alayhi salat wa salam a passé toute la nuit à faire doua. Depuis le soir jusqu'au matin. Il avait une tente que le sahaba avait dressée pour lui et il a passé toute la nuit à demander doua qu'Allah vienne en aide à ces 313 musulmans qui se retrouvent dans une situation de combat inattendu où ils doivent affronter une armée professionnelle, une véritable armée avec trois fois plus d'hommes qu'eux. Et le matin, Abou Bakr al-Siddiq, le prophète, il faisait du'a, il avait tellement levé ses mains que son rida, c'est comme le tissu de l'ihram, le tissu était tombé de son épaule. Le prophète n'avait pas remarqué qu'il continuait à faire du'a. Et là, Abou Bakr al-Siddiq a pris le tissu, il l'a remis sur l'épaule du prophète, il dit, « Oh Nabiullah, c'est suffisant. Allah t'a certainement écouté. » Tellement le prophète était concentré dans ses invocations. Et quelle acceptation de du'a. Quelle acceptation. Allah a envoyé les malaïka. Le monde de l'invisible est venu en contact et en conflit avec le monde du visible et a terrassé ces 900 à peu près personnes des Quraysh qui voulaient la mort et l'extermination des croyants. Donc, dans des situations d'angoisse, s'en remettre à Allah par le du'a, par les invocations et ainsi de suite. Et on avait demandé Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on s'était séparé sur cette citation la dernière fois et c'est une belle citation. Su'ila ba'du ahli al-'ilm ayyuhuma anfa'u lil-'abdi at-tasbih ou al-istighfar. Donc là, c'est une question plus technique. On lui avait posé la question. On avait demandé, qu'est-ce qui est mieux de dire Subhanallah, Subhanallah, faire les louanges d'Allah, ou de faire istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. La réponse est magnifique. Il dit, « Iza kana thawbu naqiyyan, falbukhur wa ma alward anfa'u lahu. » Il dit que tout dépend de la personne. Là, il donne un exemple, c'est une métaphore. Regarde le vêtement. Si tu as un vêtement qui est propre, dans ce cas, tu vas le parfumer avec, moi ça c'est l'habitude de chez les Arabes, bukhur. Bukhur c'est les petits morceaux de bois, de oud ou de sandal qu'on brûle et ça dégage un parfum très agréable. Et ça se met sur le châle, sur les vêtements et ça sent bon, ça sent plus bon que les parfums français et ça tient longtemps. Il a dit dans des situations où tu as un vêtement qui est propre, ben c'est ce genre, c'est ça sera profitable. Ou alors ma ulward, l'eau de rose. Ça, c'est des traditions perdues, hein. Parfumer ses vêtements avec l'eau de rose, mais l'eau de rose pure. D'accord? Wa in kana, mais si le vêtement est sale, ce qui est plus approprié, c'est le laver avec du savon et de l'eau bouillante. Donc, tout dépend de la situation de la personne. Quelqu'un qui revient d'une journée, malheureusement, chargé de péché, ben, ce qui était important pour lui. On est dans les embouteillages. Un frère à qui il sort depuis Saint-Joseph, Paris-Psalny. Là, il descend jusqu'à Tampon, après Saint-Pierre, après Saint-Louis, après il prend la route Tamarin. Il en a pour une heure et demie. Quelle est la meilleure façon d'occuper ce temps? Une heure et demie, c'est gentil, hein, s'il n'a pas d'embouteillage. Quelle est la meilleure façon d'occuper ce temps après une journée où on ne sait pas qu'est-ce qu'on a pu commettre, qu'est-ce qu'on a pu dire? Les manquements, les erreurs, on parle de façon générale, pour moi en premier. Meilleure chose après une journée, c'est istighfar. Beaucoup istighfar. Pour ce qu'on sait, mais également pour ce qu'on ne sait pas. Pour les péchés volontaires, mais également involontaires. Le prophète sallam ne se couchait jamais sans avoir demandé au moins 100 fois istighfar. Nabiullah, le prophète d'Allah, celui qui ne commettait aucun péché, celui qui n'écoutait jamais les insufflations de Shaitan, et que Shaitan n'avait aucun pouvoir sur lui, malgré ça, il demandait au moins 100 fois istighfar Allah Azza wa Jalla. Nous, comment est-ce possible? Qu'Allah me pardonne en premier. Qu'Allah nous pardonne, nous tout ensemble, pas en premier. Qu'Allah nous pardonne. Comment est-ce possible que le soir, on pose la tête sur l'oreiller et qu'on décolle, on s'endort et on n'a pas demandé au moins 100 fois istighfar. Sincèrement. Pas juste dire staflas, 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 en comptant, khalas, tac, 100. Allah, moi, je suis comme toi, rien. C'est pas ça. C'est vraiment regretter. Le stirfas avec les regrets, les remords, en repensant et en ayant confiance qu'Allah il est capable. Allah est là, Allah est présent, il sait ce que j'ai fait. Même si personne, même si ma propre femme ne sait pas ce que j'ai fait, parfois on ne le connaît pas aussi, même si elle ne sait pas, mais Allah connaît lui, Allah Azza wa Jal connaît ce qu'il y a dans mon cœur et Allah est pardonneur, Allah peut châtier, peut punir. Mais si je reviens vers lui avec autant d'amour et de sincérité et l'intention de ne plus recommencer, Allah Azza wa Jal est capable de prendre des 100 fois istighfar, ça c'est vraiment essentiel. Donc, si le vêtement est sale, donc c'est le istighfar, c'est-à-dire après une journée istighfar. Maintenant, si on est dans une bonne phase, les tasbihat, dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ça va nous renforcer, nous donner encore plus de force spirituelle et de fermeté. Puis, la situation, on pourrait dire, idéale pour tout type de dhikrullah, ce serait dans le dernier tiers de la nuit. Ça, c'est l'idéal. Dernier tiers de la nuit, dans la prière de la nuit. Parce que dans le qiyam ul-layl, dans le tahajjud, il y a ces trois types de adhkar. Quand on fait namaz, il y a les subhanallah, subhan rabbi al-azim, subhan rabbi al-a'la, ce sont des adhkar. Il y a la lecture du Coran, d'accord? Et il y a les du'as. On n'est peut-être pas conscient, mais dans la salah, on demande des du'as. Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est un du'a. Quand on dit Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li, ce sont des du'as. Et en plus des invocations, des du'as que nous allons faire après le tahajjud. Donc il n'y a pas meilleure situation de dhikr que de faire le tahajjud le dernier tiers de la nuit, seul, isolé. Et là, le cœur est présent. Et une règle à retenir, plus il y a de sacrifices pour l'accomplissement de l'action, plus il y aura de la dévotion, de la concentration et de la haqiqa, de la réalité de cette action. Il est normal d'avoir moins de concentration pour un amas de zohor, avec le travail, avec, d'accord? Mais pour le tahajjud, c'est un gros effort, surtout en ce moment, en été, où il faut se lever subhanallah très tôt pour l'accomplissement du qiyam ul-layl. Donc la personne qui se lève à 3h, 3h15, et il fait 2 raka'at, c'est un gros sacrifice qu'il fait. Et donc là, c'est sûr qu'avec ce sacrifice, il y aura plus de sincérité, il y aura plus de concentration. Les savants disent que si on veut atteindre ce degré, développer cette action, ben il faut être abonné au tahajjud. Comment est-ce qu'on se sent bien durant le mois de Ramadan? Et des fois, après Ramadan, on regrette, pourquoi est-ce que j'arrive pas à tenir? Comment ça se fait que dans Ramadan, on ne dit pas que je suis un ange, mais je tiens mes 30 tahajjud. C'est vrai qu'on se réveille pour le sehri et qu'on fait 2 rakat avant, mais on est capable, on répond présent. Et qu'après, petit peu, au fur et à mesure, on baisse la garde et on lève le pied volontairement. Et à un moment donné, on finit par abandonner. On se rend compte que là, le mois de Ramadan approche dans 3 ou 4 mois. C'est tout ce temps-là, je n'ai plus, depuis Shawwal, depuis Eid, je n'ai pas fait un tahajjud. C'est grave. Constat qui est grave et qui est alarmant, qu'Allah pardonne nos manquements et nous donne la possibilité de répondre présent parmi les créatures sélectes, les croyants qui sont sélects, qui sont sélectionnés par Allah, qui sont aimés pour répondre présent lors de la prière de la nuit, le tahajjud. Hada. Et également, on va terminer avec deux. On a pu arrêter à 21h15. On a deux citations et puis c'est bon. Ibn Abbas et Uthman ibn Affan. Uthman, subhanallah, c'est vraiment quelqu'un qui avait une relation avec le Coran. C'est impressionnant. Et les citations d'Hazrat Uthman sur le Coran, c'est tout simplement magnifique. On va d'abord Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Su'ila an naw'i ihya'i Ramadan. On avait posé la question à Ibn Abbas, et on connaît qu'Ibn Abbas, c'était celui qui avait le plus de compréhension du Coran. Il avait une compréhension du tafsir qui dépassait l'ensemble des sahabas, alors qu'il était très jeune. Vous savez quel âge il avait quand le prophète a accompli le Hajjat al-Wada'? Il venait d'être baligh. C'était un jeune homme, adolescent, lors du pèlerinage d'adieu. Et déjà là, il avait reçu le doua du prophète. Le prophète a fait doua pour lui. Allahumma faqqihhu fi d-din wa 'allimhu 'ilma at-ta'wil. Le prophète a fait doua pour Ibn Abbas. Et donc, la vie d'Ibn Abbas sur les commentaires du Coran, c'est toujours les meilleurs des ara. On avait posé la question à Ibn Abbas, anhuma, concernant la façon justement de passer la nuit en prière dans le mois de Ramadan. On dit demain de Ramadan, mais on peut, d'une façon générale, le conseiller pour n'importe quelle période. Halil afdal fihi, est-ce qu'il est mieux de privilégier de longues rakat avec de longues lectures du Coran, ou alors de faire des petites rakat pour avoir plus de dhikr? Parce que si quelqu'un, par exemple, on a décidé de passer 4 temps dans tahajjud, énorme quand même, hein, mashallah. Allah donne le tawfiq de le faire. Est-ce que dans 4 temps, il est mieux de le faire des rakats très longues? Genre, premier rakat, tu vas lire, quel genre, quelle soit qu'on connaît? Sur les kahaf. ou la moitié kahaf. Deuxième rakat, la moitié kahaf. C'est quand même des positions debout de 20 minutes. Après, on refait encore tahajjud. Ou alia yasin. Après, le waqi'a. Après, tabarak alladhi en entier. C'est mashallah. C'est des actions ajib, ça. Est-ce qu'il est mieux de faire de longues rakat, il y a plus de Qur'an, ou faire des rakat moyennes pour avoir plus de ruku, pour avoir plus de sujoud? Parce que quelqu'un qui va faire de longs rakat, peut-être en 4 temps, il pourra faire 8 rakat. Mais celui qui lit des rakat moyennes, il pourra en faire 16, 20, énormément. Donc, on avait posé. Voyez comment que ça avait recherché ce qui était meilleur. Vous avez posé la question. Je ne vous lis pas toute la citation. Je vous ai expliqué. Et donc, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a donné une réponse extrêmement intelligente. Il dit, innama anta linafsika. Tu dois analyser ton cœur. Fanzur ayyuhuma ahabbu ilayk. Vois dans quelle formule tu trouves le plus de dévotion. Est-ce que, en lisant de longues rakat, de plusieurs pages de Coran dans une rakat, tu trouves plus de concentration, ou alors tu trouves plus de concentration dans les sijida, dans les rukou? Elle dit, ça va dépendre des gens. Il n'y a pas une réponse fixe et universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant doit chercher et trouver le plaisir dans les bonnes œuvres. Le but, c'est pas de dire que je fais parce qu'il faut faire, parce que tout le monde le fait, c'est de trouver cette connexion avec Allah Azza wa Jal. Vous voyez, la deuxième citation, s'arrêtez là. On avait demandé à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Non, on n'avait pas demandé. On relate de Uthman ibn Affan, annahu kana yaqra'u al-Qur'ana kullahu fi layla. On a tous entendu ces citations, ces narrations que Uthman, radiallahu anhu, était capable de lire le Coran dans son intégralité de le tahajjud, toute la nuit. 30 sibara, 30 juz. On va dire mathématiquement comment est-ce possible. Il faut 20 minutes ou 25 minutes pour un juz. Donc 30. Mais la baraka, la bénédiction que eux ils avaient de le temps, ça n'a rien à voir avec nous. D'ailleurs, signe de la fin des temps, il y a de moins en moins de bénédictions dans le temps. On est mardi. Le week-end arrive. Hein, ça va, Ramadan arrive, ça va vite. Donc, Uthman, au début, il faisait un katam en entier le soir de la prière de la nuit. Et au fur et à mesure, il a ralenti sa cadence de lecture. C'est pas qu'il faisait moins, non. Il passait la nuit en ibad. Mais il lisait de façon moins rapide. Et il passait plus de temps à méditer sur les versets. Et à la fin, je pourrais dire de sa vie, il arrivait à kana rubbama qama laylatan kamilatan bi sura qul huwallahu ahad ou suratul fatiha. Il est arrivé à un tel degré de dévotion et de concentration que à la fin il pouvait passer toute la nuit uniquement vers qul huwallahu ahad sur tahajjud, en méditant. Parce que si on creuse qul huwallahu ahad, on voit l'unicité d'Allah, la force d'Allah, la puissance d'Allah. C'est pas pour rien si ça fait trois fois qul huwallahu ahad égale à khatm al-Qur'an. C'est tellement riche. Donc Uthman, il est passé de katam en entier à une méditation profonde sur une petite sourate comme qul huwallahu ahad, mais il y avait le cœur. Et c'est un sahaba, avec son intelligence, avec sa foi, avec sa recherche, son avidité spirituelle, on pourrait dire. Comment il recherche le rapprochement avec Allah? Jamais il ne délaisserait une action meilleure pour quelque chose de moins bien. S'il a décidé de raccourcir sa lecture, de lire des passages moins longs mais avec plus de dévotion, c'est que cela est plus profitable spirituellement. Qu'Allah, dans sa clémence, ouvre nos poitrines, nos cœurs, ouvre nos yeux, nous donne la possibilité de rechercher la sincérité, la dévotion, la vérité de notre relation avec Allah, et qu'Allah nous protège de l'illusion de Shaytan, l'illusion que nous sommes les meilleurs, l'illusion que nous sommes les plus pieux, que nous sommes vraiment, nous avons bien avancé, parce qu'il y a certaines actions qui sont présentes. Là, le dîn, ce n'est pas une action ou deux, c'est l'ensemble, ce qui est extérieur, mais également l'intérieur, et nous avons grandement besoin de travailler ce qui est intérieur. Il nous restera un dernier point développé. C'est, on va dire, la biographie de certains sahaba et de tabi'in. Ça, c'est dans deux semaines, inshallah. Et comment est-ce qu'ils pleuraient dans les du'as? Comment est-ce qu'ils arrivaient à pleurer dans le tahajjud, dans le dhikrullah, dans le lecture du Coran? Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte. Subhana rabbika. Rabbil Azzati amma yasifoun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.